nous qui n'avons pas d'histoire, nous qui sommes sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire.
Nos que non temos pasado, mulleres, nos que non temos historia, logo da noite dos tempos, mulleres, nos continente negro. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé. Baixo xugo aldrasadas, mulleres trafegadas, violadas, dentro de todas as casas, mulleres e do mundo illadas. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé. Rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé. Recoñecémonos todas mulleres, no sentir do noso xa, oprimidas as mulleres, queremonos rebelar. Ergámonos mulleres, rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé.
À toutes et tous, j'espère. La révolution sera féministe sur Radio Galère. Je vous remercie d'avance de votre écoute et de votre soutien dans nos luttes. Alors, pour commencer, je vais annoncer un événement, donc pour pas oublier, puisque c'est important. Ça se passe à la Cité des Associations, samedi 16 octobre à 18h. C'est organisé par Femmes Solidaires Marseille, une des associations avec laquelle je suis partenaire pour cette émission. Et il s'agit d'un échange-débat avec Mina Kassi, qui est auteure de 1-2-3 Nouvelle-Algérie, entretien avec des citoyennes du Irak, mouvement populaire en Algérie. Rencontre animée par Samia Messaoudi, qui est journaliste à Clara Magazine et à Beur FM. Ce sera un débat suivi d'un moment musical. Et puis le lendemain, toujours, par contre, ce n'est pas organisé par Femmes Solidaires, peu importe, mais par d'autres associations de Marseille. Ce sont une association Approche Culture et Territoire. Voilà, je vais retrouver l'organisateur. Donc le dimanche 17 octobre à 14h à la bibliothèque de l'Alcazar. Il y aura une projection débat avec un film qui s'appelle « Le silence du fleuve », un documentaire de 52 minutes en présence de Mehdi Lalaoui, qui est le réalisateur et qui est président de Au nom de la mémoire. Et il y aura aussi Olivier Lecourt-Grandmaison, qui est un historien, politologue, auteur. Auteur de « Le 17 octobre 1961, un crime d'État à Paris ». Voilà. Alors, donc moi j'y serai aussi, puisque j'avoue que je ne connais pas assez bien tout ce qui se passe en Algérie. Et voilà, donc je viendrai pour en savoir plus. Je vais quand même vous dire un petit texte concernant cet événement qui m'a été... écrit en fait par Annick Carsanti, qui m'a été donné par Annick Carsanti de Femmes Solidaires. Un petit texte quand même de présentation du livre de Mina Kassi. Donc Mina Kassi a ouvert la boîte de Pandore pour mettre en perspective l'histoire récente des hommes et des femmes en Algérie. L'avant-propos est saisissant. Il porte la détermination et l'enthousiasme de l'auteur qui revient dans son pays parce qu'il ne peut pas en être autrement, comme une évidence. Les rencontres qui jalonnent le récit nous amènent au cœur des rues d'Alger, dans les campagnes de Kabylie, parmi celles et ceux qui défient le pouvoir, simplement pour vivre. Réconcilier, le terme convient à ces millions d'Algériens, d'Algériennes qui ont pris l'initiative du Irak, affirmant la fierté d'appartenir à un peuple désormais rassemblé et rebelle, faisant preuve d'une immense maturité politique malgré les embûches. La jeunesse, la famille, les familles, les plus âgées se retrouvent dans un immense mouvement pacifique pour réclamer la démocratie. Pour ce peuple méprisé, appauvri malgré la richesse du pays, meurtri par 10 années de terrorisme islamique, coupable de plus de 20 000 assassinats, il a fallu surmonter ses craintes et faire preuve d'incroyables trésors d'inventivité pour déjouer les provocations d'un pouvoir aux abois. Mais quand le président Bouteflika, le candidat cadre, car on ne le voit plus, c'est une photo que ses soutiens montrent, brigue un 5e mandat, c'est trop, l'humiliation est trop forte. Lancé le 22 février 2019, le mouvement adopte le Silmaya, pacifisme, pour déjouer la violence et reconnaître l'absolue nécessité de la mixité. Le 8 mars 2019 a été la pierre angulaire du mouvement, ce jour où les femmes ont investi l'espace public, pesant d'un poids considérable pour la libération d'un peuple longtemps maintenu dans la peur et la frustration. Première cible d'une tradition patriarcale immense et insupportable, des concessions faites aux islamistes via le code de la famille qui instaure de fait la charia, les femmes algériennes ont dû endurer le contrôle et la restriction permanente de leur liberté, le contrôle de leur corps et de leur sexualité. Je vous lirai tout à l'heure un article de Kamel Daoud qui est paru récemment à propos du contrôle des corps et de la sexualité. Très nombreuses dans les marches, les femmes ont dû déjouer à la fois les violences du pouvoir et les tentatives d'écarter du mouvement les revendications féministes. Leurs forces ont mis un stop à toute tentative de hiérarchisation des revendications et la mixité s'est imposée comme composante du Irak et de la transformation de la société. Mina Kassi témoigne « Si les femmes représentent 60% des bacheliers, elles sont moins de 20% à exercer un métier. Aujourd'hui, les Algériennes interrogent le camp des démocrates et affirment que le féminisme est sans contexte la voie politique la plus ambitieuse, la plus solide, pour tendre vers une Algérie nouvelle et une société laïque. » Quant à la laïcité, ce n'est pas gagné. Donc, poids de la tradition, des campagnes, de l'influence encore grande des islamistes qui œuvrent cachés. Dans les manifs, il y a 50% de femmes qui manifestent cheveux au vent, mais beaucoup subissent le contrôle de la famille. Voilà, donc je vous disais, je ne connais pas forcément assez bien tout ce qui se passe. Je vous fais part quand même d'un message que j'ai reçu sur ma page Facebook de femmes algériennes qui, de temps en temps, m'écrivent. Donc Lala Daouya, il y a 3 jours, qui a écrit « Aujourd'hui a eu lieu le rassemblement contre les violences et féminicides à l'encontre des femmes à Alger. On nous a rapidement dispersés. Ne nous laissant même pas le temps de crier notre indignation. Nos droits sont bafoués. Nos libertés démocratiques sont remises en cause. C'est révoltant. Stop féminicide, halte aux violences faites aux femmes. Ne nous laissons plus. Ne nous taisons plus, organisons-nous, pas une de moins. » Donc je te salue, Lala Daouya, sœur de combat féministe. Voilà, donc je vous disais, j'ai envie de vous lire un texte qui est paru récemment d'un écrivain pro-féministe que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Kamel Daoud. J'en avais déjà parlé il y a longtemps, donc j'en profite du fait qu'il réécrit quelque chose pour vous lire ce très très beau texte sur le titre, c'est « Le voile n'est pas une liberté ». Donc, faut savoir qu'en Algérie, il y a une campagne « Free from Hijab » qui est menée par des femmes algériennes, Yasmine Mohamed et Jemila Benaïb, pour dénoncer le port du voile comme diktat social. Pour ces femmes, le port du voile n'est pas obligatoire en Algérie, mais il est implicitement imposé par la société. Elles se revendiquent depuis début février 2019 comme étant les prisonnières du voile, instrument d'oppression en Algérie. Peur de la violence dans la rue, du rejet de la famille, du regard des autres, des insultes sur les réseaux, etc. Ce mouvement révolutionnaire, donc Free from Hijab, a été particulièrement médiatisé suite au suicide de plusieurs jeunes filles qui se sont pendues à l'est du pays avec leur hijab. Ce fut un élément déclencheur pour l'éclosion de ce mouvement des prisonnières du voile en Algérie. Donc je vous lis le texte donc, de Kamel Daoud. Le voile n'est pas une liberté. Si on croit être libre de le porter, on n'est jamais libre de l'enlever. L'enfant de la guerre civile algérienne qu'il est s'insurge donc contre cette imposture intellectuelle. Donc, je cite, « Le voile n'est qu'un voile. Il cache et n'embellit pas. Il nie et prive l'humain du lien avec l'autre. Ce n'est pas une robe, mais un uniforme. Ce n'est pas un choix, mais le choix de se mentir ou de tromper autrui. On peut en effet parer cette défaite de son corps des codes d'une confession et de ses procureurs, et on peut user de la liberté que vous offre l'Occident pour renoncer à la liberté d'en jouir, mais cela ne trompera que les spectateurs autochtones qui ignorent les nuances de ce reniement au nom d'une croyance ou n'arrivent pas à surmonter leur culpabilité par la lucidité et la fermeté. Le voile n'est pas une liberté, car si on croit être libre de le porter, on n'est jamais libre de l'enlever. Celles qui ont eu ce courage en ont payé le prix. La peur, la menace, la violence, l'insulte et celles qui répètent que c'est un acte de liberté ne manifesteront jamais au Caire, à Khartoum ou à Kaboul pour le droit de porter une jupe courte ou d'aller seins nus sur une plage en Arabie. Le voile est-il une obsession française ? Non, c'est une obsession des religieux, des islamistes, des radicaux. Ils en font leur étendard face à la menace du désir que le miroir de la femme leur renvoie, nu et cru. Ils veulent en faire un signe de ralliement et de recrutement, une victoire sur l'enfoui et l'intime, et un signe de l'extension du domaine de leur négation du corps et de la vie. Ce ne sont pas des couturiers brimés dans leur vocation et leur créativité, mais des caporaux, qui avance en usant de la culpabilisation, de la mémoire, du souvenir de la colonisation, des hésitations et des peurs, de la rancune et de l'identification victimaire. Ils tirent bénéfice de l'innocence de ceux qui les défendent au nom de l'empathie. Ils sont les couturiers de nos malheurs, pas de nos modes. Le voile n'est jamais autre chose qu'une séparation. C'est d'ailleurs le sens étymologique le plus ancien de ce mot en langue arabe. Voiler, c'est soustraire au regard, séparer, retirer. Enterrer la femme vivante. Il y a même quelque chose de sournois et de fourbe chez les avocats du voile. Nous les avons connus en Algérie au début de la guerre civile des années 1990. Ils nous répétaient que le voile était juste un foulard ancestral, un signe et un usage sain hérité de nos aïeuls. Quand nous l'avons toléré, ils nous ont dit que le voile se devait de respecter les critères légaux de la charia, noir, ample, pour effacer les courbes, sans couleur, nocturne. Et quand nous l'avons toléré, ces avocats se prononcèrent pour le voilement du visage, l'effacement des traits. Le résultat avait dépassé le prétexte culturel pour prendre la forme d'un linceul. Il fallait enterrer la femme vivante et avec elle le désir, le corps, l'envie, le sexe, l'amour, le flirt, l'échange, le baiser, l'intime. Leur cible, c'était la vue et la vie. Le regard, il fallait l'aveugler et l'éteindre. Aujourd'hui, le premier voile que porte une femme repentie est souvent offert par ceux islamistes et conservateurs qui contrôlent les commerces au Maghreb. Des campagnes dans les médias ou les réseaux sociaux sont lancées régulièrement pour appeler, entre guillemets, les vrais hommes à voiler leurs femmes. On ne s'adresse même plus à la femme, mais à son propriétaire. Aujourd'hui, en France, comme ailleurs en Occident, on en est à la négociation d'un droit qui n'en est pas un, à la culpabilisation de ceux qui s'y opposent et aux propos niais de ceux qui se trompent d'amour et de compassion. Enfant de la guerre civile algérienne, j'ai la mémoire des visages de femmes brûlées à l'acide, des voiles obligatoires, des égorgements de femmes qui le refusaient. Le chroniqueur refuse alors, rageur, l'arnaque qui tente de maquiller une mise en uniforme et en uniformité des femmes au prétexte d'un droit culturel sournois, d'une liberté dévoyée ou d'une affirmation communautaire. Si le discours ambiant a déjà réussi à culpabiliser le français moyen face à cette épidémie de l'effacement de l'humain, cette propagande ne peut rien contre l'enfant d'une guerre civile et le souvenir que je garde des discours qui nous ont vendu comme un droit démocratique l'obligation de renoncer à la démocratie. On peut tromper des vivants, pas des survivants. Accepter le voile, c'est se voiler la face, rien d'autre. Tout le reste est renoncement raffiné. Kamel Daoud, journaliste, écrivain et chroniqueur, que je remercie comme homme pro-féministe, et je suis évidemment, vous vous en doutez, de son avis complètement. Voilà. Donc, du coup, c'est un sujet qu'effectivement je suis bien obligée d'aborder, effectivement, et que j'ai déjà abordé souvent. J'ai même consacré un podcast entier sur le sujet du voilement et de l'islam politique, puisque ça va avec. Et en fait, du coup, bon, je vais quand même vous citer, puisque j'ai parlé de cet homme pro-féministe, mais je vous cite aussi toutes les femmes, évidemment, de culture musulmane qui s'érigent contre le voile islamique. Je vous donne quelques noms parce que des fois, on me demande. Et c'est important, en fait, puisqu'on ne les entend pas assez, ces femmes, qui sont très nombreuses. Mariam Namazier, mais bon, on ne les entend pas assez dans les médias, c'est ce que je veux dire. Donc, Mariam Namazier, Shala Shafik, Shador Javan, Wasila Tamzali, donc, il y en a plein, Jemila Benahib, Fatia Boujala, Shador Javan, Nasrim Sotoudeh. Voilà, pour la plupart, ce sont là, j'ai cité des Algériennes, des Iraniennes. Et je rappelle aussi la condition de Nasrim Sotoudeh. J'en profite pour rappeler que cette éminente avocate iranienne qui avait été condamnée à 33 ans de prison et 148 coups de fouet pour le simple fait d'avoir défendu des femmes qui manifestaient pacifiquement contre le port obligatoire du hijab en Iran, a été et est toujours incarcérée depuis longtemps. Elle a fait des années de prison. Et il y a eu des pressions mondiales qui avaient permis de la faire libérer, mais elle a été à nouveau en prison. Voilà. Et puis, actuellement, elle fait une grève de la faim et ses conditions de vie sont vraiment problématiques. Enfin, on est très, très préoccupés pour elle. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller, par exemple, sur vous cherchez Shador Javan. C'est une personne qui en parle souvent et vous trouverez tout ce qui se passe autour de ça. Voilà. Alors, Je vais du coup en profiter pour vous parler de la thématique par rapport au féminisme et religion, en fait, parce que ça, enfin, je l'aborde aussi forcément souvent. Je l'ai abordé aussi, par exemple, quand j'ai parlé, j'ai fait un podcast entier sur l'action des Femmes, qui sont une des principales associations féministes très connues pour s'intéresser à la religion et à dénoncer en fait le pouvoir patriarcal des religions. Donc c'est une association qui n'hésite pas à se prononcer sur le sujet. Voilà, donc je vais revenir sur ce sujet. Alors premièrement, d'ailleurs moi-même j'avais écrit aussi un plaidoyer, mon plaidoyer personnel. Donc je vais vous faire part de différents points de vue, on va dire, différentes citations, différentes positions. Alors premièrement, pour éviter les confusions, il y a souvent une confusion qui est faite quand on parle de tout ce qui est religieux. Je vais citer une philosophe actuelle qui s'appelle Marilyn Maizo, que j'ai découverte samedi dernier d'ailleurs grâce à une formation de l'Université d'automne de l'Assemblée des femmes que j'ai suivie sur Zoom because Covid. Et j'ai noté une question qui lui était posée. Voilà, et du coup, je vais la citer parce que je pense que c'est une confusion que j'entends aussi souvent. Et c'est important d'expliciter. Donc, on lui demandait quelle place la lutte féministe peut-elle laisser au monde religieux quand aujourd'hui, la critique du patriarcat religieux et culturel connaît une défiance, notamment chez les plus jeunes. Alors, voilà ce qu'elle répond. Je crois que le cœur du problème réside dans la confusion entre les deux dimensions de la religion, à savoir sa dimension objective, institutionnelle et doctrinale, et d'autre part sa dimension subjective, personnelle, qu'on appelle généralement la foi, mais qui inclut aussi les pratiques religieuses. On ne peut pas nier que les religions en tant qu'institutions, doctrines et pouvoirs politiques, sont marquées par des structures patriarcales. Quand la religion est utilisée pour contrôler le corps des femmes, pour justifier la soumission d'une femme à son mari, pour bafouer le consentement en inventant la notion de devoir conjugal ou pour banaliser les violences conjugales en se réclamant de textes religieux, la domination patriarcale est à l'œuvre. Et le féminisme s'étant toujours attelé à déconstruire les structures de domination qui sont omniprésentes dans la société, qui n'épargnent rien, gouvernement, éducation, culture, sport, etc., ne peut pas faire l'impasse sur les structures de domination de nature religieuse. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas être féministe et croyante, parce que la foi de chacun lui appartient et que le rapport du croyant à Dieu ne concerne que. Et je pense que les croyants qui voient la lutte féministe d'un œil méfiant comme si elle leur demandait de renoncer à leur foi, gagneraient à lire... Ah zut, là j'ai coupé, du coup je ne vais pas pouvoir vous dire qui elle citait, mais elle citait une féministe qui certainement expliquait que c'est tout à fait possible d'avoir une foi et d'être féministe. Voilà, malheureusement, il faudra que je retrouve le nom de cette personne qu'elle a citée, mais là je ne l'ai pas dans mes petits papiers. Voilà. Maintenant, je vais vous citer le point de vue de Oser le féminisme par rapport aux religions. Oser le féminisme dit « L'ensemble des religions, parce qu'elles ont été pensées, construites et dirigées par des hommes, parce qu'elles continuent de l'être, constituent non seulement le reflet, mais également une arme du patriarcat. Les femmes y sont reléguées au second plan, considérées comme impures et donc condamnables par nature. » Nos corps et nos sexualités, ils sont généralement perçus comme un danger qu'il faut dompter, effacer. Maintenant, je vous cite Inna Shevchenko, présidente des Femmes. La révolution des femmes demeurera inachevée tant que le féminisme refusera d'entrer en guerre contre les religions, responsables historiques et contemporaines de l'endoctrinement misogyne de nos sociétés. Nous bousculons les tabous de la sexualité féminine sans dénoncer sa totale négation par les religions. Les féministes ne peuvent plus prétendre que l'assujettissement des femmes est un effet secondaire ou une erreur d'interprétation de la religion. C'est au contraire l'une de ses plus grandes ambitions. En refusant de se confronter au sexisme religieux, les féministes butent devant le principal obstacle culturel à franchir pour atteindre l'égalité des sexes. Voilà, je vous avouerai que ça, ces deux positions-là, des féminines et oser féministes, c'est plutôt les miennes, effectivement. Je pense que les religions n'ont pas besoin qu'on les qu'on les excuse tout le temps. Je pense qu'il y a un déni sur le danger des religions. Voilà. Les excuses pour ne pas blâmer les religions ont bon dos. Il serait temps d'arrêter cette hypocrisie. D'ailleurs, ça, c'est le titre d'un article d'un homme pro-féministe que j'apprécie aussi. Je pense que je vais certainement vous le lire aussi, parce qu'il m'a beaucoup plu, cet article. C'est un article de Gérard Biard, et je suis aussi tout à fait d'accord avec lui. Voilà. Donc, du coup, je vais commencer par... Ouais, en fait, je pensais vous lire mon petit plaidoyer personnel que j'avais écrit moi-même sur les religions. Je m'étais fendue d'écrire, parce que je me considère pas du tout comme une femme. Enfin, j'ai pas très confiance en moi par rapport à l'écriture, mais je me suis lancée quand même une fois, puis c'est un sujet qui me préoccupe effectivement, pour écrire ma petite position par rapport à ça. Ah voilà, je l'ai retrouvée, donc je vais vous la lire. Puis celle aussi de Gérard Biard, puisqu'on est en plein procès Charlie Hebdo. Et voilà, et je pense effectivement aussi à Charlie Hebdo, puisque Gérard Biard est journaliste à Charlie Hebdo, si vous ne le savez pas. Donc, mon plaidoyer personnel. Toutes les religions et leurs représentants sont actuellement passés à l'offensive. Elles ont toujours été les ennemis surnaturels de la liberté des hommes et surtout des femmes. Les institutions religieuses justifient les inégalités et prétendent diriger de manière totalitaire les pensées et les actes de l'ensemble des membres du corps social. Dans une période où les crimes des religions réapparaissent au grand jour, défendons la laïcité. Les religions doivent retourner dans la zone du privé, dont elles ne sont sorties que pour le malheur de l'humanité. Connaissez-vous Richard Dawkins ? Pourquoi ce grand scientifique, un des 100 intellectuels les plus influents, est-il si inconnu dans notre pays ? La France, notre pays laïque. Je pense que c'est un des seuls pays du monde, la France, qui est laïque d'ailleurs. Et pourtant, donc, ce Richard Dawkins me pose la question, pourquoi est-il si méconnu ? Dans de nombreux pays, l'athéisme est un crime, presque partout en fait, tout comme le blasphème ou les relations sexuelles hors mariage. Pourquoi entend-on si peu la parole des critiques des religions ? Pourquoi cette complaisance généralisée envers les religions ? Est-ce que j'ai encore le droit, tout comme Richard Dawkins, de considérer que les religions sont indignes de respect ? Je considère, tout comme lui, que justifier le fait de croire sans preuve est dangereux pour la pensée qui doit rester libre, indépendante et rationnelle. Je considère, tout comme lui, qu'elles sont source de la plupart des conflits. Et j'ajouterais qu'elles sont les meilleures alliées du patriarcat, outil de pouvoir absolu puisque divin. La place de la femme étant clairement subordonnée à l'homme, son rôle principal sacralisé, restant la procréation et la servitude. Les religions prônent une vision malsaine de la sexualité, celle du patriarcat. La sexualité est taboue, la femme serait impure, sauf si elle est vierge ou couverte, et coupable d'attiser les pulsions de l'homme qui serait par nature violent et l'éloignerait de la spiritualité. Si vous ne me croyez pas, c'est que vous ne les avez pas lus, ces textes sacrés. Et oui, personne ne s'en donne la peine, malheureusement. Donc là, je vous ramène aussi à un podcast. Maintenant, ça me vient à l'esprit. J'avais traité ce sujet dans un podcast qui s'appelle Female Pleasure, parce qu'il y avait un documentaire très bien fait aussi sur les religions et les droits des femmes dans le monde. J'étais partie de ce documentaire et je m'étais mise à lire beaucoup. Mais d'ailleurs, c'est pas nouveau en fait que je lis tous ces textes sacrés pour voir ce qu'ils disent. Donc moi, j'en ai lu. Et j'en ai étudié pas mal. Connaissez-vous Bertrand Russell, mathématicien, et considéré comme l'un des philosophes les plus importants du XXe siècle, défenseur des droits humains, militant pour la paix ? Il a milité à l'époque pour notre liberté sexuelle, droit à faire l'amour sans être obligé de se marier. C'était dans les années 70. Donc. Les relations hors mariage sont encore un crime, il faut savoir, dans de nombreux pays où la religion fait loi. Ce grand philosophe, qui a donc beaucoup œuvré pour la paix, l'amour et la justice, considérait la religion chrétienne, qu'il connaissait et subissait, comme des systèmes liberticides et totalitaires, d'une cruauté inspirée par la peur et l'ignorance. Eh bien, aujourd'hui, je veux me sentir libre et fière de dire que je pense comme lui. Et j'en profite pour rendre hommage à une grande féministe, Zineb El-Razoui, adversaire acharnée de l'islam politique, une femme qui revendique le droit d'une critique rationnelle de la religion islamique, le droit à la liberté de conscience et à l'émancipation des musulmans dans le monde du joug obligatoire de la religion islamique. Cette militante pacifique des droits humains fait face à une violence abyssale et à des menaces de mort de la part de ceux qui prônent la défense des religions au nom du sacré. Tout comme Richard Dawkins et Bertrand Russell en son temps. Tout comme elle, je respecte les croyants, car ils sont libres. Donc là, on revient à la distinction qu'a fait tout à l'heure Marilyn Maezo, c'est-à-dire qu'il faut bien distinguer ce que je critique, les idéologies et les dogmes, l'aspect politique des religions, donc... Je le sépare de l'aspect personnel, donc je respecte les personnes en tant que personnes qui croient ce qu'elles veulent, il n'y a pas de problème. Donc je reviens sur ce que je dis là, tout comme elle, je respecte les croyants, car ils sont libres de croire, tant qu'ils respectent mon droit de ne pas croire et de ne pas respecter, ni encore moins d'obéir à des dogmes que je considère sexistes, cruels, dangereux, nuisibles au respect de la vie. Voilà, c'est mon droit de ne pas respecter des dogmes auxquels je ne crois pas. Et c'est le droit des croyants de croire à des dogmes auxquels ils ont envie de croire, si ça leur fait du bien. Voilà. Je considère le respect de la vie des femmes, de la paix. Donc, c'est mon droit de ne pas obéir à des dogmes que je considère sexistes, cruels, dangereux, nuisibles au respect de la vie, au respect des femmes, au respect de la paix, au respect de la connaissance, de l'amour et de l'humanité. Moi, mon rêve, c'est de rêver de relations hommes-femmes qui soient libres de tout tabou et donc aussi, évidemment, des tabous religieux. Au lieu d'une sexualité qui serait basée sur une idéologie malsaine de péché, de possession, de contrôle, de rapport de force, de violence pour soumettre la femme au désir de l'homme, moi, je rêve d'une sexualité basée sur l'estime, la réciprocité, l'égalité. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser que ça me fait une transition sur mon deuxième grand sujet d'aujourd'hui, qui sera la prostitution. Puisque le lien, c'est quoi ? C'est que si je rêve d'une sexualité libre, basée sur le désir, la réciprocité, eh bien, évidemment, je suis abolitionniste de la prostitution. Voilà. Et ça, c'est un grand combat. Et voilà, donc j'en parlerai dans la deuxième partie de l'émission. Je vais du coup, avant de faire une pause musicale pour terminer sur le sujet des religions, vous lire l'article de Gérard Biard, hein, parce que ça va exactement dans le même sens en fin de compte. Et ça se rapporte aussi au procès des attentats qui ont lieu actuellement. Donc c'est tout à fait d'actualité. Voilà, le titre c'est « Le fanatisme, c'est plus compliqué que ça » par Gérard Biard, ça date du 27 septembre 2020. Les excuses pour ne pas blâmer les religions ont bon dos. Il serait temps d'arrêter cette hypocrisie. Combien de fois faut-il vous le répéter ? Les religions, toutes les religions, sans exception, sont amour, oui, avec un A majuscule, car elles incarnent ce que l'humain a de plus beau et de plus pur. Surtout, elles incarnent le génie de Dieu qui a créé l'homme pour l'adorer et la femme pour servir la soupe et enfanter des garçons si possible. Le catholicisme est bonté, l'islam est paix, le judaïsme est sagesse, le bouddhaïsme est plénitude et les quelques centaines de divinités que se partagent l'hindouisme en colloque sont cool et font tourner la bœuf. Cette évidence étant énoncée, il est par conséquent inconcevable qu'une religion soit responsable, de près ou de loin, de tout acte de violence, quel qu'il soit. Ce qui explique pourquoi, dès lors que l'on tue, massacre, égorge, lapide, pend, viole ou torture, en son saint nom, il se trouve toujours d'innombrables sachants pour nous expliquer que la cause de tant de mal est forcément ailleurs. S'agissant de l'islam, religion qui produit son content de djihadistes et autres soldats de Dieu, où l'on encourt la mort dès que l'on prononce de travers le nom de Mahomet, où de zélés épandeurs de bonnes paroles mitraillent à tout va, où se font exploser au milieu de foules civiles, où tout cela est dûment planifié, orchestré et revendiqué par des mouvements qui se proclament eux-mêmes islamistes, où la haine des plus forcenés est aiguillonnée par les autorités d'État qui s'appuient sur la loi divine pour soumettre et manipuler leur population, la tendance est encore plus prononcée, car il faut mettre les bouchées doubles. À peine un attentat est-il commis qu'arrive la formule rituelle « ça n'a rien à voir avec l'islam ». Au procès des attentats de janvier 2015, la stratégie des avocats de la défense va d'ailleurs dans ce sens. Dès que la question de la religion arrive dans les débats, leur voix s'élève pour dire que ce n'est pas le sujet. À les entendre, l'idéologie religieuse n'a rien à faire dans un tribunal qui doit se prononcer sur des crimes commis au nom de Dieu. C'est aussi la thèse d'un article du Monde qui a été publié à la veille de l'ouverture du procès, invitant ses lecteurs à surtout ne pas surévaluer les motivations religieuses des terroristes. Bien entendu, personne n'est dupe, à commencer par ceux qui écrivent ou profèrent ces supercheries. Ils savent tous que derrière les menaces et les crimes, il y a une idéologie politique, religieuse, totalitaire. Il suffit d'entendre le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui déclarait déjà en 1998, alors qu'il n'était que maire d'Istanbul, je cite, « Les minarets seront nos baïonnettes, les coupoles nos casques, les mosquées seront nos casernes et les croyants nos soldats. » Il accuse Macron d'avoir donné le feu vert à la republication des caricatures par Charlie Hebdo pour comprendre, si ce n'était déjà fait, la nature de son régime et son idée de l'exercice de pouvoir qui ne conçoit qu'absolu. La volonté de ne pas stigmatiser les croyants musulmans, de ne pas faire d'amalgame à bon dos. Au fond, les auteurs de ces manœuvres d'évitement destinées à évacuer du débat la nocivité d'une idéologie politique sont fascinés par la radicalité et la pureté revendiquée des systèmes totalitaires. Il est troublant de constater quelle somme d'énergie a été dépensée en théories fumeuses pour expliquer la Shoah autrement que par l'antisémitisme d'Hitler, ou le génocide khmer autrement que par la rage sanguinaire de ses dirigeants. Bien qu'il avance parfois masqué, l'islamisme est aujourd'hui la doctrine politique totalitaire la plus expansive dans les deux sens du terme. Tous les tyrans du monde ne sont pas islamistes, loin s'en faut, mais la tyrannie islamiste sévit dans de très nombreux pays et à tribune largement ouverte à l'ONU. C'est donc cette idéologie qu'on cherche à occulter en priorité partout où elle sème la mort, avec des explications géopolitiques, historiques, sociales, psychiatriques, qui ne craignent ni l'absurde ni le ridicule. Dans la panoplie des vraies raisons qui animent les djihadistes, ne manque que le réchauffement climatique pour l'instant. Voilà, très bon article de Gérard Biard, que je salue. Donc je vais faire une petite pause musicale, bienvenue, avec Janis Joplin, Me and Bobby.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and us feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, hon, if it ain't free. No, no. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah.
Voilà, donc je reprends le cours de l'émission La Révolution sera féministe sur Radio Galère. Alors, je ne pensais pas passer autant de temps sur tout ce sujet religion, etc. Du coup, j'avais prévu de parler de prostitution, mais je ne vais pas avoir le temps, mais je vais parler de pornographie. De toute façon, ça va ensemble. C'est le même combat. Et bon, avant de passer au sujet pornographie, je vais continuer sur ma lancée par rapport aux actualités religieuses. Il y a une autre actualité qui m'a sauté aux yeux et dont je n'ai pas parlé. Je n'ai pas eu le temps de parler. J'ai connu cette actualité grâce à la journaliste Ina Shevchenko, présidente des Femen, qui écrit elle aussi. Dans Charlie Hebdo. Donc, il s'agit d'une femme, une Britannique, qui est actuellement en guerre contre la charia et son ex-mari, un Français catholique. Cette femme s'appelle Afsana Lachaud. Pourquoi un homme français catholique chercherait-il à obtenir un divorce auprès d'un tribunal de la charia ? Pour ce que la charia a de mieux à offrir, priver une femme de tous ses droits. Mais pourquoi un tribunal d'un pays européen approuverait-il la décision discriminatoire d'un système judiciaire fondé sur une doctrine religieuse fondamentaliste ? Voilà, c'est effectivement cette nouvelle qui est très préoccupante. Donc il faudrait enquêter sur cette histoire. Donc. Eh bien, cette histoire, elle est dure à croire, effectivement. Et pourtant, elle n'est pas un cas isolé. Afsana Lachaud, une mère britannique et ancienne haute fonctionnaire, mène depuis 2012 une bataille juridique dans 3 pays. Auprès des tribunaux français et britanniques, elle espère pouvoir faire annuler la décision discriminatoire du tribunal de la charia de Dubaï, donc aux Émirats arabes unis, et ainsi récupérer la garde de son enfant. Le mariage entre Afsana, qui est une musulmane non pratiquante, et Bruno Lachaud, un Français catholique, a été enregistré à Londres en 2010. Et 2 ans plus tard, Bruno Lachaud, qui vivait donc à Dubaï avec cette femme, sa femme, eh bien, il a eu l'idée, la super idée, d'avoir recours à la cour de la charia de Dubaï, où le couple vivait et travaillait, pour dépouiller Afsana de tout moyen financier et la priver de la garde de leur fils Louis. Voilà, mais ce qui est incroyable, c'est que maintenant, elle se bat contre ce tribunal de la charia et il semble que l'Angleterre a accepté cette décision de ce tribunal. C'est ça qui est très, très préoccupant. Et du coup, je me suis rappelée d'une conférence sur Pékin plus 25 que j'avais suivie à la Maison des Avocats Et c'était, enfin, la conférencière, c'était Geneviève Courault de l'Assemblée des femmes, qui avait fait un peu tout un panorama de toutes les conventions sur les droits des femmes qui existent et tout ça. Et en fait, du coup, j'ai repensé à un moment, elle avait parlé de cette histoire, de l'existence de tribunaux islamiques qui effectivement existent, et de l'Europe, comment fait l'Europe par rapport à... Il existe bien donc des tribunaux islamiques qui sont informels, qui citent notamment les conseils de la charia, ils existent au Royaume-Uni, ou encore des fonctions judiciaires exercées par les muftis en Grèce orientale, sans garantie procédurale satisfaisante. Et donc, il y a eu une déclaration de l'Assemblée des parlementaires de l'Europe qui date du 22 janvier 2019 concernant la place de la charia. Et l'Assemblée avait exprimé son inquiétude concernant le fait que la charia, y compris des dispositions clairement contraires à la Convention européenne des droits humains, s'appliquait officiellement ou officieusement dans plusieurs États membres du Conseil de l'Europe. Voilà, et pourtant, donc évidemment, l'Assemblée des parlementaires de l'Europe est favorable au principe de séparation de l'État et de la religion et a souligné alors que les déclarations islamiques sur les droits humains adoptées depuis les années 1980, dont les textes sont plus religieux que juridiques, ne conciliaient pas l'islam avec les droits humains universels. C'est notamment le cas de la déclaration du Caire sur les droits de l'homme en islam de 1990, qui, bien qu'elle ne soit pas juridiquement contraignante, a une valeur symbolique et une importance politique. Il est extrêmement préoccupant, ont déclaré les parlementaires, que trois États membres, à savoir l'Albanie et l'Azerbaïdjan et la Turquie, aient avalisé expressément ou implicitement la déclaration du Caire, tout comme la Jordanie, le Kyrgyzstan, le Maroc et la Palestine, dont les parlements jouissent du statut de partenaire pour la démocratie auprès de la PCE. Voilà, donc il y a une résolution qui a été faite à l'Assemblée européenne sur la base d'un rapport d'Antonio Guterres qui a appelé les États membres à protéger les droits humains indépendamment des pratiques ou des traditions religieuses ou culturelles. Sur la base du principe qu'en matière de droits humains, il n'y a pas de place pour les exceptions religieuses ou culturelles. Voilà. Donc tout ça, c'est une affaire à suivre puisque visiblement, cette actualité de Afsana Lachaud, cette Britannique en guerre contre la charia, nous fait penser qu'il y a du boulot sur la planche et que voilà, il y a de quoi s'inquiéter. Donc je vais passer maintenant à un autre thème qui a sujet donc avec la pornographie. Donc il y a eu une actualité que je n'ai pas relatée, qui date du 27 février dernier. Le mouvement du Nid, donc je rebondis sur cette actualité pour vous parler de pornographie, le mouvement du Nid, Oser le féminisme et les effrontés se sont réjouis que suite à des signalements faits par nos associations au procureur de la République le 27 février 2020, le parquet de Paris est décidé d'ouvrir une enquête préliminaire à l'encontre de la société Jacquet et Michel pour proxénétisme aggravé et viol. Nous dénonçons les violences sexistes et sexuelles inhérentes au système pornocriminel et demandons justice pour les victimes. Le 18 février 2020, nous avions été en effet nombreuses et nombreux à être choquées face aux révélations de la vidéo Les dessous sordides du porno amateur diffusé sur la chaîne Combini. Une enquête dénonçant les viols lors des tournages de l'entreprise pornographique Jacquet et Michel. Y était également démontré le proxénétisme aggravé en bande organisée, expliqué par le cofondateur lui-même dans un enregistrement téléphonique. Le témoignage de Karima, le prénom a été modifié, décrit les mêmes pratiques de violences sexuelles et d'abus de faiblesse. Il est aussi similaire aux témoignages reçus dans nos associations d'accompagnement des personnes prostituées. Nous espérons ainsi que cette procédure judiciaire, donc pour l'instant je n'ai pas les tenants aboutissants, donc je ne sais pas où ça en est. Donc nous espérons donc que cette procédure judiciaire permettra de révéler la réalité de l'industrie pornographique qui relève de la prostitution filmée. Nous recevons de nombreux témoignages de personnes accompagnées qui vont dans ce sens, souligne Claire Kidé, qui est présidente du mouvement du Nid. C'est donc un système organisé, des modes opératoires bien huilés, à travers lesquels les proxénètes de Jackie et Michel ciblent les femmes les plus vulnérables pour commettre des violences sexuelles contre elles. Un système déjà dévoilé dans un livre enquête, donc ce livre ça s'intitule « Judy, Lola, Sophia et moi » de Robin D'Angelo en 2018. Cette impunité doit cesser. Que pourrait être un mouvement féministe de lutte contre les violences sexuelles comme MeToo si nous ne pensons pas d'abord aux femmes qui subissent les pires viols et tortures, les violences organisées et systémiques du système pornocriminel et prostituteur. C'est ce que souligne Céline Pic, qui est porte-parole d'Oser le féminisme. Voilà, donc... Avant de terminer cette émission, parce qu'il ne reste plus que 5 minutes, je voulais vous passer un petit audio justement du témoignage d'une représentante du mouvement d'Ouni. Ça y est, j'oubliais son nom, c'est Sandrine Goldschmidt. Excusez-moi parce que je fais la technique en même temps, donc il faut que je retrouve le son en même temps que je vous parle. Donc ce n'est pas forcément très très facile pour moi. Alors j'ai fait une playlist sur les audios que j'ai par rapport à la prostitution et la pornographie. Voilà, je vais la retrouver. Et je voulais vous passer le témoignage donc, de Sandrine Goldschmidt, une des porte-paroles du mouvement d'Uni, que j'ai rencontrée au forum de la Marche mondiale des femmes à Toulouse il y a un mois de ça, et qui va vous parler justement de cette affaire Jackie Michel et de la pornographie. Donc voilà, j'espère que tout va bien marcher, vous allez l'écouter, je vous laisse l'écouter.
Canal+, évidemment, etc., existe grâce aux revenus de la prostitution filmée. Et donc, prospère sur des violences sexuelles exercées contre des femmes à travers le monde et des enfants qui sont filmées et dont on fait croire que parce qu'elles seraient filmées, elles seraient moins graves, alors qu'en fait, ça les rend encore plus graves, d'autant qu'on sait que plus que la violence est exponentielle dans la prostitution filmée, puisque la répétition des visionnages demande toujours de la nouveauté. Hein. En marketing, on a besoin de nouveauté. Et la nouveauté dans cette matière, c'est d'être de plus en plus raciste, de plus en plus sexiste, de plus en plus lesbophobe, et de plus en plus violent, et de la torture, etc., etc. Et ça, malheureusement, c'est là où on est quand même devant un vrai problème pour pouvoir se battre contre. C'est chacune et chacun d'entre nous, tous les jours, on y participe avec tout ce capitalisme qui en bénéficie. Et on peut le voir, vous avez dû entendre parler de l'affaire Jackie et Michel. Donc suite au signalement d'Oser le féminisme, des effrontés et du mouvement d'Uni, une enquête préliminaire a été ouverte. Bah, Jackie et Michel, c'est aussi une société qui vous vend des t-shirts, merci Jackie et Michel, des machins partout, tout le monde se promène avec ça. Enfin, c'est sans fin en fait.
Oui, les témoignages qu'on entend du coup sur les personnes qui ont été dans des vidéos pornographiques. Pardon. Les personnes qui témoignent comme quoi elles ont été dans des vidéos pornographiques, en fait, elles le disent bien que... Enfin, on va parler de viols, parce que pour moi, ce sont des viols. Les viols qu'elles ont subis, en fait, face caméra, c'est encore pire que d'être prostituée par ailleurs, parce qu'en fait, à chaque fois que quelqu'un visionne la vidéo, c'est comme si elle était à nouveau violée. Et les images, on ne peut pas les retirer. Enfin, elles sont, une fois qu'elles sont en ligne, après, elles vont être échangées, elles vont être sur des centaines de sites, et c'est impossible de retirer ces images. Donc là, même au niveau violence, même au-delà de la violence physique qu'elle aura subie, la violence psychologique qu'il y a derrière, et le fait de se dire que à jamais ce qu'elle a subi sera en ligne, c'est juste insoutenable.
Et servira de corps de plaisir à des hommes.
Alors, pour aller dans le sens de la similitude.
Et voilà.
Je reprends l'antenne pour vous dire merci et je vous dis donc à bientôt. Je vous remercie de votre soutien. Vous pouvez me contacter sur le Facebook La Révolution sera féministe si vous voulez partager avec moi. Eh bien, je remets l'hymne des femmes. À bientôt.
Nous qui sommes